Qu'est-ce qu'on pourrait dire ce matin? Il y a tellement de choses à partager. Alors, je me suis préparé un petit peu rapidement, mais je pense qu'on pourra partager suffisamment certaines choses. Il y a un mois, je vous ai parlé d'un sujet. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous redemander le titre, le développement. Je vous ai parlé de la solidarité réciproque des membres de l'Église. Et je vous ai dit que la solidarité, elle était au centre de la croix, avec une symbolique très très forte, celle de cette poutre verticale qui parle de notre relation personnelle avec Dieu, et l'image aussi de cette poutre horizontale qui présente la croix comme le plus grand appel à la réconciliation de tous les temps. Alors je me suis beaucoup arrêté sur la dimension horizontale puisque c'était le but de ce message. Aujourd'hui, je vais m'arrêter plutôt sur la dimension verticale, qui est celle de notre relation personnelle avec Dieu. On peut relire un verset, Matthieu 22, verset 34. Je vais essayer quand même de ne pas être très long, si jamais je continuerai l'année prochaine. Et puis on pourra prendre un chant, voilà. Si je ne suis pas trop long, on prendra encore un dernier chant. Matthieu 22, verset 34, on l'avait lu la dernière fois, mais je veux le relire. Je vous le relis dans la version Semeur, vous suivez avec moi, Matthieu 22, 34. En apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Amen. Et on avait dit que le premier grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'était cette dimension verticale de la croix, celle de notre relation personnelle et intime avec Dieu, et que l'autre grand commandement, je dirais, qui en découle directement, est symbolisé par la dimension horizontale, celle de notre relation les uns avec les autres. Quand je vous avais parlé, c'était avant le week-end avec Patrick Boudéen. Là, on est après. Et on a vu que c'était un sujet important, la relation les uns avec les autres, si on tient compte un petit peu des synthèses du sondage qui a été fait, apparemment, ce n'est pas notre fort. Donc, prions le Seigneur sur ce thème de cette poutre horizontale de la réconciliation, de l'unité des croyants, de la vie réelle étant plusieurs, mais de la réalité d'un seul corps en Jésus-Christ. J'ai marqué plein de choses, il faut que je m'y retrouve. Dans le retour du week-end, je réfléchissais et je me disais que, suite à ce que j'avais pu partager avec vous, il est important de réaliser, dans l'Église, il y a des attentes dans nos cœurs, dans la relation les uns avec les autres. Vous savez, des fois on dit, oh là, dans cette Église, il n'y a pas d'amour. Mais on a envie de dire, si chacun on peut en apporter un peu déjà. Et en restant sur cette pensée, je me suis dit que peut-être nous avons besoin de considérer que notre implication personnelle, elle est aussi fondamentale. D'une certaine manière, je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Et c'est pour ça que ce premier et grand, le plus grand commandement, c'est vraiment cette relation personnelle et intime avec le Seigneur, d'où découlera automatiquement, j'allais dire presque proportionnellement, plus je suis rempli de son amour, ce deuxième commandement et qui finalement n'en font qu'un, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est bien de cette relation vivante, tonifiante, de cette relation intime avec Dieu que découlera, ou pas, la vie autour de nous. Il n'y a pas de mystère dans l'Église. Une vie débordante de la vie de Dieu, c'est une vie qui puise à la source. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Vous savez, quand on a certaines responsabilités au niveau de l'Église, on réfléchit parfois. Et j'ai eu beaucoup de mal dans mon parcours personnel à encourager les uns et les autres à peut-être donner de l'argent, peut-être à venir à l'Église. Vous savez, parfois, il y a une certaine pression sur ces choses-là. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire partie, on doit encourager les chrétiens dans toutes ces choses-là. Mais j'avoue que personnellement, j'ai mis un point d'honneur à mettre plutôt l'accent sur tout mettre en œuvre pour rendre les uns et les autres, allez, je vais le dire comme ça, fous d'amour pour notre Dieu. Car de là découle tout le reste. Quand notre cœur il est pris entièrement pour le Seigneur, vous croyez qu'on a besoin de dire aux chrétiens de venir à l'Église? Vous vous rappelez le jour de votre conversion? Vous croyez qu'on a besoin de dire il faut mettre la main au porte-monnaie? On va prendre l'exemple tout simple du fiancé et de la fiancée. Ah, les premiers instants, les premiers jours. Vous croyez que vous avez besoin d'aller dire à l'un et à l'autre « Oublie surtout pas le rendez-vous. Sois pas trop radin pour la bague que tu vas acheter. » Vous croyez franchement qu'on a besoin de se dire ces choses-là? Mais non. Et je crois que dans la relation avec le Seigneur, il y a aussi ces dimensions que nous pouvons réaliser. Et ce matin, on pourrait intituler peut-être le message comme ça. L'intimité avec Dieu, un lieu inépuisable de ressources. Un lieu inépuisable de ressources. Et je dirais même que c'est le secret d'une vie épanouie avec Dieu. Pourquoi ? Parce que même Jésus ira jusqu'à dire qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et donc, en définitive, je vais à la source, je reçois, donc je peux donner. Et en donnant, j'ai encore plus de joie. Extraordinaire, c'est jackpot, on gagne de tous les côtés. Mais dans la vie de l'Église, dans ma relation les uns avec les autres, si cette intimité n'existe plus avec le Seigneur, si elle n'existe pas du tout, que puis-je donner que je n'ai reçu au pied du Maître? Et je garderai ce matin intentionnellement cette image de la relation de couple. Je le fais parce que le Seigneur lui-même le fait, il prend l'image, vous savez, de l'époux et de l'épouse. Christ est présenté comme l'époux, l'Église comme l'épouse. Et il y a cette comparaison souvent dans plusieurs textes. Je pense à Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et je vais prendre un petit peu cette image de la relation de couple pour qu'on puisse comprendre combien il est important et fondamental de puiser dans l'intimité avec Dieu toutes les ressources nécessaires, alors, pour notre vie et automatiquement pour celle des autres qui nous entourent sur ce thème « Que puis-je donner que je n'ai pas reçu ?» Qu'est-ce qu'on peut puiser dans l'intimité avec le Seigneur? Si on garde cet exemple, le premier exemple du commandement d'aimer le Seigneur de tout notre cœur et ensuite en découle la partie horizontale de la croix, j'aime mon prochain, eh bien on peut parler de la nécessité ou de la capacité dans l'intimité avec Dieu, dans cette présence avec lui, de ranimer dans nos cœurs le feu du premier amour. Pourquoi, quand on regarde tant de couples, pourquoi au fil du temps les choses se désagrègent? Discuter encore, mais bon, vous avez aussi certainement des sujets de discussion là-dessus, mais c'est impressionnant de voir aujourd'hui l'éclatement. On a presque plus de représentativité traditionnelle, j'allais dire, de ce que peut être un couple. En tout cas, en termes de longévité, ça paraît presque naturel de, voilà, on change, on passe à l'un, on passe à l'autre, etc. Il n'y a pas de fidélité dans l'amour, mais il y a aussi dans le fonctionnement de la relation, vous savez, dès qu'il y a un petit peu de tension, etc., pas forcément que dans un couple, avec des amis, même dans l'église, ça peut se passer, vous savez, on met un petit peu de distance. Alors là, c'est la spirale. Hein. Moins on se parle, plus ça se distend. Et en fait, on a besoin de passer du temps de qualité, d'autant que ça dépend de nous, bien entendu. Parce que parfois, on ne peut pas obliger quelqu'un dans la relation. Mais je dirais que, et beaucoup s'en sont aperçus, c'est que l'amour, ce n'est pas l'affaire d'un jour. Ce n'est pas parce que j'ai dit oui devant le maire, ce n'est pas parce qu'il s'est passé telle chose. Mais l'amour, c'est l'affaire de toute une vie. Et où nous avons la responsabilité, et nous en tant que croyants, de cultiver, d'entretenir notre relation par des moments d'intimité dans la présence du Seigneur. Je me suis posé la question, pourquoi certains ressortent du culte très enthousiastes, ils sont gonflés à bloc, et puis après plus rien. Fille de quelques minutes, ou le jour suivant, quand on est au travail, tout ça. Eh bien, j'ai compris que pour certains, le seul moment d'intimité, c'est celui où on se trouve ensemble. Alors c'est déjà bien d'en avoir un, mais quel dommage. Ce matin, en repensant à tout ça, je pensais, vous savez, toutes ces voitures électriques là qu'on voit un petit peu partout, là, et les gens, ils arrivent avec, peut-être vous en avez une, je ne sais pas. Hop, il faut la brancher. Et une des difficultés au développement des voitures électriques, c'était la question de l'autonomie. Hein, voilà, la capacité des batteries, tout ça, etc. Et vous imaginez, le gars, il met dans la prise, hop, 30 secondes, clac, il sort. Alors, je sais qu'il y a des charges super rapides, hein, mais bon. Et parfois, si on se contente de notre intimité avec le Seigneur, juste le temps du culte, c'est quoi, 2 heures sur toute une semaine? Je pense que l'autonomie, ça ne va pas trop le faire. Et on a besoin de passer du temps dans la présence du Seigneur pour raviver cette flamme. Le Seigneur l'a dit à l'église de l'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. J'ai cependant un reproche à t'affaire, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Vous vous rappelez les premiers instants quand on volait pour aller à l'église? On ne marchait pas, on volait. Eh oui, que Dieu nous aide dans cette intimité, dans ces temps particuliers, comme on l'a chanté tout à l'heure, où on est dans sa présence, il n'y a rien de plus merveilleux. Je me rappelle aussi, et je l'ai cité ici, c'est l'expérience des disciples d'Emmaüs, ils ne savaient pas que c'était le Seigneur qui était avec eux. Et pourtant, plus tard, ils diront ceci, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» C'est au contact de la présence du Seigneur que cette flamme, ce feu du premier amour est ravivé. Je crois que c'est vrai qu'il y a parfois de la routine qui s'installe dans la vie de couple. Ils peuvent rester ensemble et ce n'est plus du tout la même relation. Et avec le Seigneur, ça peut être aussi la même chose. Mais Dieu, dans sa grâce, veut nous attirer à lui. Peut-être parfois, il permettra même nous amener au désert. Vous vous rappelez de ce verset de Osée ? C'est pourquoi voici, je veux l'attirer, la conduire au désert, je parlerai à son cœur. Dieu peut permettre des temps parfois difficiles, et combien d'hommes et de femmes j'ai vu revenir à Christ parce qu'ils étaient dans des temps de difficulté. Et ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est que même s'il y a un petit lumignon qui fume, lui, il saura le raviver dans nos cœurs. La Bible dit, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume. Il y a toujours de l'espoir dans nos cœurs et dans notre vie pour ranimer ce feu du premier amour. Oui, l'intimité avec Dieu, c'est un lieu inépuisable de ressources. Ranimer le feu du premier amour. Et aussi, on pourrait parler d'une autre dimension. Je disais tout à l'heure, c'est important pour nous, pour être, comment dire, fortifié, mais ça a aussi cette incidence directement avec tous ceux qui nous entourent. Parce que bien sûr, si je suis inondé de l'amour de Dieu, je pourrais accomplir tout naturellement, vivre tout naturellement ce commandement d'amour pour mon prochain. On pourrait parler, par exemple, aussi de la question de puiser des forces, parler de cette autonomie de la voiture électrique. Et c'est vrai que de rouler dans cette vie, ce n'est pas si facile que cela. On a des persécutions, on a des difficultés, chacun a les siennes, ça peut être de tous ordres, nous avons des vies différentes, mais il y a certainement des points communs sur le fait qu'on a besoin de puiser des forces. C'est ça la question de l'autonomie, la question de véritablement... Vous savez, quand je parlais des couples, et je me souviens, tiens, ça m'avait plu ça, c'était un homme politique qui disait ceci: « Ah ben moi, ma force, c'est mon couple. » Hein, ça m'avait plu ça. Et si vous le prenez à l'envers, quand vous côtoyez des collègues de travail, des fois, qui vivent des relations de couple difficiles, vous discutez avec eux, vous les sentez fatigués, usés, et cette énergie qu'ils auraient pu puiser dans cette relation particulière, ben finalement font qu'ils manquent de force. Et je crois qu'il y a des situations, combien de gens parfois sont tristes, découragés, déprimés, parce que, je parle de couple, mais je pense aussi aux célibataires, vous inquiétez pas, hein, un couple, ça peut être aussi des relations d'amitié très fortes. C'est le cercle, le petit groupe qu'on a autour de nous, vous inquiétez pas. On peut vivre des relations amicales beaucoup plus fortes que parfois des relations qui n'existent pas à l'intérieur d'un même couple. Donc j'oublie pas les célibataires, hein, vous inquiétez pas. Mais combien sont découragés, déprimés parce qu'ils n'ont pas su ou ils n'ont pas pu se renouveler leur force dans l'intimité de couple. Et le croyant, il a le même besoin de renouveler ses forces dans ces moments d'intimité, que de découragement chez les chrétiens, que d'inquiétude, que de soucis, que de dépression parfois, parce que on n'a pas été capable ou on n'a pas laissé la prise branchée suffisamment longtemps pour pouvoir avoir toute cette énergie. Pourtant, la Bible est claire, ne vous inquiétez de rien. Vous vous rappelez, David, un jour, il a tout perdu. Sa maison, elle a été brûlée, ses femmes ont été enlevées, il n'avait plus rien du tout. Et comme le de tout, vous savez quoi? Le peuple, il voulait le lapider. Dégoûté. Ils n'avaient plus personne autour d'eux. Vous trouverez ça dans 1 Samuel chapitre 30. Mais il est dit ceci: David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Alléluia. 1 Samuel chapitre 30, verset 6. Et je crois que c'est dans les moments d'intimité avec Dieu que nous pourrons entendre sa voix apaisante, nous rappeler combien son amour est grand, que rien ne pourra nous séparer de lui, qu'il est là à nos côtés. C'est dans ces moments d'intimité. David, il a laissé la prise suffisamment longtemps. Ça a été bénéfique pour lui parce qu'il a renouvelé ses forces. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est que ceux qui voulaient le lapider, ils sont partis avec lui, ont combattu avec lui, des forces pour lui, des forces pour ceux qui sont autour de nous. Combien c'est important de réaliser le lieu inépuisable de ressources que nous avons dans la présence du Seigneur. Troisième point, donc on pourrait parler aussi pour lui confier tous nos problèmes. On pourrait dire se décharger de ses soucis. Il y a peut-être un petit paradoxe. On sait que Dieu connaît parfaitement toutes les situations de notre vie. Vous êtes d'accord? Il est même écrit « Même vos cheveux sont tous comptés ». Est-ce qu'il y en a un qui veut venir devant et qu'on prenne le temps de compter les cheveux? Là, je continuerai l'année prochaine, ça c'est sûr. Hein. Ça veut dire qu'il connaît tous nos besoins. Il est écrit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Waouh ! Je vous ai lu Luc 12, 7 et Matthieu 6, 8. Et pourtant, il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Oh, par des prières, des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Et je crois que là aussi, il y a le secret de ce temps d'intimité avec Dieu. Il connaît tout. mais il nous invite à lui confier tous nos soucis. Vous savez, Dieu, c'est le plus grand psychologue. Quand vous avez un confident, un ami, regardez bien, vous allez lui parler de vos soucis, de vos problèmes, vos difficultés. Vous allez repartir. Rien n'a changé. La situation est la même. Vous êtes apaisé dans votre cœur. Et la prière que nous pouvons adresser à l'Éternel, c'est la solution pour pouvoir déverser tout ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Et c'est aussi un gage de confiance, comme nous l'avons avec des proches qui sont autour de nous, parce que nous aimons et il aime par-dessus tout que nous nous reposions sur lui pour tous nos soucis. Vous savez, quand la relation de couple devient compliquée, les conjoints ne se confient plus l'un envers l'autre. Ils vont se confier à d'autres personnes, des collègues, des amis. Et pourtant, c'est dans l'intimité du couple que l'un et l'autre va recevoir l'écoute dont il a besoin pour pouvoir partager ses peines. Même si, et c'est important de le dire, même si nous savons que l'autre n'a pas le moyen de solutionner notre problème, on sait une chose qui va être déterminante. Ça, c'est un petit secret. On sait qu'il fera tout ce qu'il peut pour nous. Et quand on partage le pain et le vin, on peut dire que celui qui a pu faire ça pour nos vies, l'apôtre Paul le dit, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui ? Oui, parlez déjà soulage. Le Seigneur, il connaît nos faiblesses, il connaît la difficulté que nous avons à ne plus nous inquiéter et dans sa grâce, il nous donne le moyen de la prière pour nous confier en lui, pour vider notre sac. Eh oui, non pas comme un vague espoir qu'il nous entend, mais en sachant que Dieu, et c'est la parole de Dieu qui le dit, fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment dans Romains chapitre 8, verset 28. Même si Dieu peut nous dire, c'est pas le moment, j'ai meilleur pour toi, nous savons au fond de notre cœur qu'il est tout puissant, qu'il fera tout pour notre bien. Dans l'intimité de Dieu, je dépose tous mes fardeaux, je reçois sa paix, je sais qu'il s'occupe de moi. Alléluia. Il est écrit ceci, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Et peut-être pour nuancer ce symbole de la croix verticale et horizontale, il y a vraiment, et je vous l'ai dit la dernière fois, une responsabilité individuelle dans la vie personnelle avec Dieu. Il est écrit ceci, « Toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. » Amen. Matthieu chapitre 6, verset 6. C'est vraiment la partie verticale, partie personnelle. Le secret d'une vie épanouie, d'une vie qui sera capable aussi de donner aux autres, c'est une vie d'abord qui reçoit de l'amour pour pouvoir aimer les autres, de la force pour pouvoir affronter toutes ces difficultés, peut-être pour donner aussi de la force à ceux qui sont autour de nous, plutôt que du découragement, la possibilité aussi, cette vie personnelle, de se décharger en lui de tous nos soucis. Si on ne le fait pas, qu'est-ce que deviennent nos amis autour de nous ? Des déversoirs de notre misère. Jérémiade, plainte sans fin, qui importune parfois les gens, au lieu qu'ils soient au bénéfice d'une vie joyeuse et épanouie. Je me rappelle M. Lafayette qui nous disait ceci, un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Et quel dommage, avec la bonne nouvelle de l'Évangile que nous avons, avec toutes ces ressources inépuisables que nous pouvons puiser à la croix du calvaire, que nous ne soyons pas communicatifs de la joie, du bonheur, de la paix, de la quiétude dans nos vies. Et je terminerai peut-être par cette dernière dimension que nous pouvons puiser au pied du Seigneur dans cette relation d'intimité, c'est la possibilité de recevoir des secrets. Vous savez que Dieu a des secrets ? Eh oui. Et il y a des secrets qu'il veut nous révéler. Et ça, c'est dans l'intimité, la proximité avec le Seigneur que nous pouvons les recevoir. Regardez le témoignage de Joseph. Vous avez aussi le témoignage de Daniel aussi, pardon. Je pensais à Joseph par rapport au Pharaon, mais à Daniel aussi, qui parle de tous ses secrets. Vous avez aussi l'exemple d'Abraham. Je pensais à Abraham par rapport à Lot. Et il est écrit ceci, c'est l'Éternel qui dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Quand on est dans cette intimité avec Dieu, on peut avoir des révélations. Discuter avec quelqu'un cette semaine, je trouve extraordinaire comment Dieu aujourd'hui encore peut parler par des visions, des révélations, par des songes et par des rêves, des choses extraordinaires. Et je crois que Dieu peut nous communiquer dans cette intimité avec lui des choses qu'il veut accomplir dans nos propres vies et qui a aussi une incidence, comme on l'a vu tout à l'heure, sur la vie des autres autour de nous quand il nous permet, par exemple, dans la vie de Lot, de préserver parfois même des gens de notre propre famille. Le psalmiste dit « Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent ». Psaume 25, verset 14. Un dernier exemple. Quel apôtre Jésus aimait le plus ? Waouh, Jésus, il aimait quelqu'un plus que les autres ? Oui ? Bon, on est d'accord, ces gens, ou pas ? Oui ? Eh oui. Il est écrit, un des disciples, celui que Jésus aimait. Waouh, c'est sympa pour les autres. Il était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Vous voyez, ils étaient malins. Ils savaient la proximité de Jean avec Jésus. Vas-y, demande-lui. Et ce disciple s'étant penché, donc Jean s'étant penché sur la poitrine de Jésus, il lui dit, Seigneur, qui est-ce ? C'est dans le contexte, vous savez, de savoir qui allait trahir Jésus. Et Jésus répondit, c'est à celui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Escariote, dans Jean 13, verset 33. Et vous savez, c'est ce même Jean qui écrira le dernier livre de la Bible. C'est quoi le dernier livre de la Bible ? Apocalypse, en grec. Apocalypsis. Il y a des gens qui parlent grec ici ? Couramment, merci. Ça veut dire révélation. Révélation. Le disciple que Jésus aimait, celui qui avait une intimité tout à fait particulière avec lui, a reçu des secrets incroyables. La révélation des temps à venir que vous trouvez dans le livre de l'Apocalypse. J'ai fini. Waouh ! Que Dieu nous aide les uns et les autres à vivre cette vie d'intimité. Je pensais à cette image, vous savez, du puits aussi, on va puiser. Voilà. Bon, on ne le fait plus maintenant, on tourne au robinet, mais avant, il fallait prendre le seau, et puiser un peu d'eau, qui était une ressource pas aussi abondante comme cela dans la maison. Mais combien nous avons besoin pour nos vies personnelles déjà de nous ressourcer. Parfois, on pointe le manque qu'il peut y avoir autour de nous sans mesurer qu'en définitive, nous pouvons nous aussi apporter de belles choses, notamment dans notre vie d'église, dans notre relation les uns avec les autres. Mais je ne peux donner que ce que j'ai reçu personnellement dans ces temps d'intimité avec le Seigneur. Le culte, ce n'est pas juste 2 heures. Le culte, ça commence... Ah, vous voulez savoir quand ça commence ? Ben, je vous le dirai l'année prochaine. Ça commence le jour où j'ai ouvert mon cœur à la grâce. Voilà le début du culte. Et il s'achèvera à 11h30. Ouais, je suis déjà un peu... Je ne voulais pas finir tard, mais... Ouais, quand on sera dans sa présence. Voilà, c'est ça le culte, la durée du culte. C'est-à-dire que, alors, je ne suis pas en train de vous dire ce matin qu'il faut aller ce soir, aller, vous allez marquer 2 heures, passer toute la nuit en prière et tout ça, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais quand je suis dans la voiture, un petit chant, un verset, n'importe quoi, une pensée, tiens, je pense à ce frère ou à cette sœur, ce témoignage qu'il m'a donné, tiens, je pourrais l'appeler. Cette vie continuelle de grâce tout au long de la semaine qui nous permet de nous ressourcer où que nous soyons. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Et si on ne va pas à la source de la joie qui est notre Seigneur Jésus-Christ, comment on peut être constamment rempli de la joie du Seigneur? Je vais inviter Lauriane à venir. Notre sœur aussi. Sylvain, les musiciens, allez, Sylvain. On va chanter ce chant. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Voilà, je vais prier, on va chanter et après nous allons profiter un petit temps de la communion fraternelle et surtout rester vraiment toujours dans notre cœur près du Seigneur. Oui, nous voulons nous rappeler, Seigneur, cette prière qu'a fait les disciples et des amis d'Emmaüs sans vraiment s'en rendre compte. Reste avec nous, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons te demander pour toute notre vie, Seigneur. Reste avec nous. Ce n'est pas que tu ne veux pas être là, puisque même parfois, nous ne réalisons même pas ta présence avec nous, comme l'avaient vécu ces disciples-là. Mais c'est nous qui, par notre folie parfois, te délaissons, te mettons de côté, trop préoccupés par mille et une choses que cette vie ici-bas sur la terre nous accapare. Seigneur, donne-nous aux uns et aux autres de la sagesse pour continuer notre culte que nous avons commencé le jour où nous t'avons donné notre cœur. Que dans ces temps, même parfois difficiles, orageux, même dans des situations familiales compliquées, Seigneur, au milieu du travail aussi, que nous puissions réaliser que cela peut être un sujet de joie, comme dit l'apôtre Jacques. Dans ces moments de tension, de conflit, que nous puissions avoir ce bon réflexe comme l'a fait David, qui aurait pu s'effondrer. Il a puisé en toi toutes les forces nécessaires. L'ennemi est là, il guette tous nos faux pas, tous nos manquements, il guette tous nos doutes, Seigneur, pour nous faire chuter. Nous avons tellement besoin de recharger nos accus spirituels pour qu'on ait suffisamment d'autonomie pour avancer dans la terre ici-bas. Tu nous as montré cet exemple, Jésus, que tu savais prendre le temps, à l'écart de tout ce tumulte, pour prier, pour avoir ce temps de qualité avec le Père Céleste. Alors aide-nous, les uns et les autres, nous n'avons pas à nous comparer dans une fonction de temps. Chacun sait ce qu'il a à faire, comme il a à le faire. Seigneur, nous sommes tous différents, avec des sollicitations différentes. Mais Seigneur, que notre vie, elle déborde de cette qualité relationnelle et cette intimité avec toi, afin qu'elle soit débordante de joie, de paix, de sérénité, non seulement pour que nous vivions une vie joyeuse déjà ici-bas sur la terre, mais aussi que pour que tous ceux qui nous entourent en bénéficient directement et que cela soit un témoignage à la gloire et à l'honneur de ton nom. Amen.